France Culture.
Entretien avec Francis Ponge par Philippe Solers. Aujourd'hui, 10e entretien. Pour un Malherbe, pour une nouvelle culture.
Vous avez écrit un « Pour un Malherbe ». Là encore, malentendu, contresens, beaucoup y ont vu comme une sorte d'apologie classiciste, alors qu'il s'agit d'un livre provoquant et écrit manifestement à partir d'une intention subversive, à partir justement de Lautréamont et des poésies de Lautréamont. Malherbe vu depuis la grande coupure historique qu'est pour nous la fin du XIXe siècle, la Révolution dont nous avons parlé. Je voudrais que, dans ce livre si complexe, nous essayons de souligner un certain nombre de points. D'abord, ce qui me semble très important, c'est ce que j'appellerais la décision de langue qui vous a fait vous attacher à Malherbe. Ensuite, ce que j'appellerais la décision d'une sorte de programme global que vous définissez par un ensemble de 4 mots. Révéler, élaborer, raffiner, abolir. Enfin, j'aimerais que nous parlions et que vous nous parliez de cette formulation que je trouve être une sorte de théorème de l'activité de l'écriture telle qu'elle doit être pratiquée en faisant jouer toute la profondeur de la langue. C'est la suivante: rien à dire égale tout à dire. Rien à dire égale tout à dire vous conduit à réintroduire le concept de poésie, mais d'une façon cette fois-ci radicalement modifiée, puisque vous êtes amené à dire que la poésie est la science par excellence. Et j'aimerais que vous nous disiez pourquoi et quels sont ces rapports entre poésie et science à l'intérieur de cette nouvelle définition.
Oui, je commencerai par cette lecture d'un brief note à l'intérieur du Malherbe. Un des points importants de mon Malherbe est celui-ci. On ne peut commencer à saisir l'importance relative et absolue de cet auteur que depuis Lautréamont, c'est-à-dire depuis que nous pouvons considérer une certaine littérature française comme close, terminée, enfermée à double tour, bouclée. Depuis aussi que, lecteur comme auteur, tout le monde a pris vraiment l'habitude d'être allé et revenu de tout. Je repars sur un autre fragment. La langue, telle que depuis 700 ans elle se donne, nous laisse un peu loin de compte pour ce que nous avons à exprimer. Il nous faut prendre la parole. Autre fragment. Le premier mot de cette étude doit être pour se constater lui-même comme écrit en français. L'accord sur ces signes continue. Constatons cela, nous le voulons. Nous n'abandonnerons pas le bâtiment, puisque nous ne l'abandonnons pas. Mais le moment est dangereux. Nous avons besoin de pantanières, c'est-à-dire de cordes pour tenir les haubans roides pendant la tempête. Il serait absurde que nous ayons à les tresser de nouveau. Nous pouvons demander leur secret, au pluriel, à des gens comme Malherbe ou Cézanne. Ce n'est pas de l'archéologie. Nous vivons dans le moment présent. Mais nous sommes la cime d'un arbre qui a connu de pareils moments, surtout au moment de sortir du sol. Malherbe est de cela, il est le tronc de la francité. Autre fragment. À notre époque, c'est plus grave, plus profond que jamais. Il ne s'agit plus de l'honnête homme, mais de l'homme. Il s'agit assurément d'une nouvelle civilisation, telle que celle que nous connaissons par l'histoire des civilisations, par exemple Sumer, l'Égypte, le Mexique, la Grèce. Mais il s'agit ici de la France et de la francité. notre langage, c'est la langue française, nous ne pouvons en sortir. Parabole de l'arbre, Malherbe, tronc, Lautréamont, fin d'une certaine littérature. Comment une feuille extrême se retourne vers le tronc pour le révérer, et qu'il faut bêcher à son pied, contre les entassements critiques, contre les reconstitutions à la Viollet-le-Duc. Nouveau fragment. Peut-être un jour s'apercevra-t-on, peut-être deviendra-t-il clair que la principale qualité d'une œuvre de langage, qu'il s'agisse de prose ou de vers, de philosophie ou de poésie, comme aussi bien de technique ou de journalisme, lui vient du goût qu'elle révèle quant au choix et à la mise en place des valeurs verbales, mots ou syllabes, qui la constituent. Enfin, des sons significatifs dont elle est faite, lesquels se trouvent encore, depuis l'invention de l'écriture et plus encore depuis celle de l'imprimerie, être sensibles à l'œil. Quand je dis la qualité principale, je veux dire celle qui assure l'effet le plus certain et le plus durable à la fois sur les sens et sur l'esprit de l'homme. Quand je parle du goût qu'elle révèle, c'est que ce choix et cette mise en place sont commandés non du tout uniquement par la raison, mais par le goût, par les sens, par une sorte d'instinct antérieur à ce goût. Mais comme aussi, dans les œuvres de langage, la signification a une importance fort grande, aussi bien quant au besoin qui les conditionne, à la nécessité qui est à leur origine, que quant à la possibilité d'accueil, d'accord qu'elles supposent et attendent de la part du lecteur ou de l'auditeur, c'est pourquoi le goût dont je viens de parler, goût physique, goût des oreilles et des yeux, des valeurs tonales et formelles, ne s'exercera-t-il pour ainsi dire que par des censures, c'est-à-dire qu'étant donné ce qui est à dire, à faire entendre, à communiquer, l'écrivain refusera de le dire autrement que d'une certaine façon, selon telle allure, tel timbre, etc., qui est justement celle que lui impose son goût, celui de ses sens. Il s'agit en somme ici d'un surcroît d'exigence, et donc naturellement, si cette exigence est satisfaite, d'un surcroît de satisfaction et de volupté. Qui est sensible à ce genre de valeur est un lecteur pour la poésie. Nouveau fragment. Musique pythagoricienne. Le plus admirable est que ce ne sont pas des formules abstraites. Elles participent de la géométrie, des nombres, mais il s'agit de nombres concrets. Il s'agit de paroles, non de chiffres. Il s'agit des nombres concrets du verbe qui ont rapport aux choses. Il s'agit de la nomination de choses du monde sensible en nombres sensibles. Bien marquer la différence entre les nombres de la géométrie, de la mathématique, et ceux du verbe du monde sensible. Les uns ne sont que des divisions quantitatives de l'unité. Les autres sont des espèces de la pluralité, des variétés de la vie, des harmoniques ou divisions qualitatives de l'unité. Elles signifient la vie, la variété. Elles exigent moins de l'esprit et risquent donc moins de partager ses erreurs. La poésie est alors la science la plus parfaite, non la mathématique ni la musique. Tout ceci, ajoutai-je, senti intuitivement par moi, est encore trop confus. Il me faudrait y revenir et essayer de préciser. Différence de la musique verbale et de l'autre, il s'agit ici d'un concert de vocables, de sons significatifs, où la signification, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, le rapport aux choses du monde extérieur et son évocation précise, entre pour une part, une assez importante part. Encore un nouveau fragment. Pourquoi Malherbe est cependant le plus discuté de nos grands auteurs? Parce que c'est un monument abrupt, comme les murailles de Chaldée ou d'Égypte, poésie de pierre grise abrupte, raison abrupte. Nous circulons à son pied, nous n'avons pas le recul nécessaire, nous avons le nez dessus. Même c'est une importance encore supérieure qui lui vaut notre incompréhension, car il se dresse à une hauteur telle qu'il rejoint au zénith les œuvres supérieures de tous les horizons, de toutes les autres civilisations, de tous les horizons civilisés. Quand les pétroles de Rouen flambèrent en 1940, les énormes colonnes de fumée et de flammes, la flamme à l'intérieur de la colonne de fumée, qui montaient de chaque bac, s'élevèrent avec une telle force ascensionnelle, d'un tel élan, avec une telle fougue, qu'elles me parurent se rejoindre au zénith. J'étais là, n'est-ce pas? Nous avons fait sauter la station magasin où j'étais militaire, qui était là au milieu des bacs de pétrole à Grand-Queville. Ainsi en est-il des œuvres les plus importantes de chaque civilisation. Ainsi en est-il de celle de Malherbe. Et voilà une figure assez neuve, peut-être pour le Parnasse ou le Panthéon universel. En quoi cette image n'est pas tellement inadéquate, celle de la tour de feu. La parole, en un sens, s'élève comme la fumée, mais elle n'est touchante, impressionnante, que dans la mesure où des flammes sont sensibles en son centre. La parole, douée d'une force ascensionnelle ardente, fougueuse, et qui monte tout droit malgré le mouvement baroque hélicoïdal des flammes, et qui donne l'impression d'une haute tour qui nous porte irrésistiblement d'un seul coup, dès les premiers mots, à un niveau supérieur. Pensez aussi aux tuyaux d'orgue, aux grandes orgues, aux cheminées par où passe le souffle, l'animation, et qui vibrent et produisent des ondes contagieusement entendues, ressenties fort loin. En un sens, les strophes des poèmes dans la page ressemblent à des tronçons de tuyaux ou de tours ou de cheminées. L'esprit y circule, évolue un peu à la façon des flammes, s'élevant en spirale à l'intérieur. Ne pas insister, c'est presque un lieu commun. Ce qui n'est pas du lieu commun, c'est de donner de l'importance à la colonne de fumée. C'est aussi de conserver son importance au fait qui me saisit si fort à Rouen, à savoir que ces colonnes, bien que parfaitement verticales, se rejoignaient au zénith. Il faut donner toute sa force à la couleur du phénomène, ces formidables spirales noires dans un ciel de mai sans nuages, et presque sans vent, du moins au sol. On sait que le phénomène fut aperçu dans toute une région de la France et se répandit jusqu'à Paris. Quoi qu'il en soit, me revient ici à l'esprit ce que dit un auteur à propos de Malherbe, qu'il s'élève au-dessus de la poésie habituelle parce qu'il rejoint la métrique latine des longues et des brèves. Son ambition, me semble-t-il, je l'ai dit, est d'opérer la confusion de la raison, R-A-I-S-O-N, et de la raison, R-E-S-O-N, c'est-à-dire des choses qui résonnent seulement. Ou si l'on veut, du raisonnement et du raisonnement. Il ne s'agit plus ici ni de baroquisme, ni de romantisme, ni de classicisme, ni de préclassicisme. Surtout, il ne s'agit plus d'opinion ni d'idée. Il ne s'agit que du verbe, le verbe français, et de sa rigueur et force ascensionnelle, la plus magnifique qui ait jamais été. Pourquoi dis-je rigueur ? Parce qu'il ne se produit aucune dispersion selon les horizontales. Tout est dirigé, droites et courbes, flèches et volutes, très énergiquement et très constamment, vers le haut. L'on peut dire encore que c'est le dictionnaire français dans toute son épaisseur qui flambe, c'est le dictionnaire français mis en ordre de fonctionnement, saisi par le feu, par l'esprit, qui fonctionne autant, au moins autant, qu'il ne signifie. De la caisse de résonance du verbe français, de la lyre française elle-même. Et voilà pourquoi c'est seulement depuis l'Autréamont et le surréalisme qu'on commence à pouvoir le comprendre. Il trépigne comme la pitié, comme les grands génies. À la fin, c'est trop de silence. Il piaffe d'impatience. C'est de cette supériorité altière et agressive, comme prométhéenne, qu'il tient cet air de défi éternel, de provocation, qu'il rend odieux aux petits esprits, Dieu merci, et lui vaut sa vie, sa réacidification perpétuelle. Quant à nous, nous savons bien que c'est le calme olympien qui nous serait intolérable, car ce calme n'est que celui de la suie qui retombe. Nous préférons cet orgueil, cette joie terrible. Il faut bien par quelque côté rejoindre les bêtes, la bêtise. Ici, c'est par le défi absurde porté incessamment à la prétendue intelligence. Quant à la rigueur, dire que la violence du désir, parfaitement furieux, jointe à l'impossibilité de l'objet, suffise bien à la produire. Ce sont tout à la fois la violence du désir et la hauteur, l'éloignement extraordinaire, l'altitude impossible de l'objet qui maintiennent la parole en forme. Beaucoup plus encore que les contraintes techniques. Et voilà où je ne suis pas d'accord avec Valérie et la théorie classiciste traditionnelle. Il suffit de vouloir très fort atteindre un objet lointain, et précis, impossible et précis, pour prendre le plus court chemin, la ligne droite, pour prendre aussi et garder la forme d'une flèche, la plus profilée, comme on dit, la plus tendue, la moins dispersée selon les horizontales, la plus ramassée, ceci à l'intérieur d'un espace respirable, d'un vide animé. Naturellement aussi la plus vibrante. Comme dans les fusées stratosphériques, le désir doit s'y relancer lui-même à chaque instant. La strophe ne doit pas être trop courte, la préférée sera le 10 ans chez Malherbe, de façon à contenir sa provision de relance et à pouvoir les développer, quoique toujours dans la même direction, vers le but, pour se garder en forme. La violence même de nos intuitions nous maintient en forme, non les règles. Nouveau fragment. Il semble que les règles, exigences techniques, sont posées d'abord comme impératives pour que la difficulté qu'elles soulèvent, l'obstacle qu'elles dressent, oblige à piétiner, à marquer le pas, à faire, comme on dit, du surplace, voire à s'enfoncer, à s'enterrer sur place, comme un assiégeant devant un mur. Cela, à la vérité, dans quelle intention secrète? Pour créer une accumulation de force. Il faut bien se rappeler en effet, et cela seul un créateur sans doute peut un jour se le rappeler, parce qu'il l'a éprouvé lui-même, comment cela se passe dans le travail de l'expression verbale. Les impératifs techniques, rimes rares et stériles, césures, pas de hiatus, strophes à sens complet, sonnets réguliers, etc., ne servent au fond que de clés de tension. On finit par les transgresser s'il le faut. Ils sont là pour délimiter le champ de l'objet textuel et peut-être pour créer la tension, le champ de force. Mais comme il est parfaitement impossible d'obéir à toutes les règles à chaque instant, on finit, dis-je, par les transgresser l'une ou l'autre et finalement, au bout du compte, on les aura transgressées toutes, une fois ou l'autre. Nos règles véritables, celles qui ne peuvent être formulées, car ce n'en sont pas, ce ne sont que des censures instinctives. Nos règles, dis-je, sont bien plus graves, bien plus impérieuses, bien plus arbitraires. Ce sont comme des obsessions impératives, des manies, des rites, des inhibitions, des phobies personnelles. Peut-être, justement, est-ce dans la mesure où nous voulons les garder secrètes, dans la mesure où nous les concevons comme si arbitraires et en quelque façon si maniaques, si honteuses, mais pour rien au monde nous nous en priverions. Oui, peut-être, est-ce dans cette mesure même que nous aimons donner l'illusion et nous la donner à nous-mêmes pour nous rassurer, nous donner l'apparence de nous être soumis à d'autres règles, celles qu'ils se peuvent édicter, celles que tout le monde connaît et s'épuise, épuise ses ressources de vigueur et de génie à observer. Ainsi faisons-nous notre opération secrète, à l'abri, à l'intérieur, sous le couvert de la cérémonie traditionnelle, de la messe rituelle. Comme d'ailleurs, de toute façon, nous employons le langage qui sert à de tous autres usages et à de tous autres auteurs. Encore à peu près sur le même thème. Valéry est poète, celui auquel la difficulté inhérente à son art donne des idées, et ne l'est pas celui auquel elle les retire. Donne des idées. Quelle pitié. Hélas, Valéry prouve ici qu'il n'est pas poète. Cela me semble évident, trop évident. Quant à moi, je dirais en effet qu'est poète, si on veut employer ce mot, celui qui a tellement fort quelque chose à dire, quelque émotion à communiquer, qu'il peut s'opposer toutes les règles, tous les obstacles, toutes les difficultés possibles. Il n'oubliera jamais ce qu'il voulait dire, et il finira toujours par le dire, par le faire passer comme une évidence. Peut-on dire seulement que sans ces difficultés qu'il s'oppose, il ne parviendrait jamais à le faire assez intensément, assez clairement pour le faire passer intégralement comme une évidence? Non, on ne peut même pas dire cela. Eh bien, si ce n'est un sonnet, c'est une sonnette, répondit un jour Malherbe à Racan. Et enfin, je finirai cet ensemble de citations de fragments par celui-ci. Il faut insister sur ce qu'on n'a jamais dit, à savoir le symbolisme constant, ou plutôt la signification seconde de chacun de ces textes. Les principes de son art poétique sont, pour ainsi dire, l'unique sujet qu'il traite, au fond. C'est ce qui fait de lui l'un des poètes par excellence et finalement un héros du Panthéon. Il ne connaît qu'un seul thème, la parole comme telle, sonnant à la louange de la beauté comme telle. Il réalise à chaque instant la transmutation de la raison en raison. C'est la résonance dans le vide conceptuel de la lyre elle-même comme instrument de la raison au plus haut prix. Il réalise un concert varié de vocables.
Entretien avec Francis Ponge par Philippe Salers. C'était aujourd'hui le 10e entretien pour un Malherbe, pour une nouvelle culture. Assistant Jacques Devin. Mercredi 10 mai à 22h40, 11e entretien. Rupture et révolution culturelle, un matérialisme sémantique, le pré.